Donc on commence une nouvelle série, reste constant, deviens inébranlable. Reste constant et on va voir que le fait d'être constant, ça nous permet d'être inébranlable. Et nous avons eu l'introduction tout à l'heure de Pasteur Johan qui nous encourageait vraiment à travers le titre, ce qu'il a vécu, l'inébranlabilité. Voilà, j'ai répété, merci Seigneur, j'ai dit d'une fois. L'inébranlabilité, gloire à Dieu, c'est pas quelque chose que l'on reçoit. On devient inébranlable. On devient inébranlable. Tu peux prier, Seigneur, je veux devenir inébranlable. Mais on devient inébranlable en manifestant, en vivant dans la constance. Tellement de fois on a commencé notre vie, notre parcours chrétienne, dans des projets. On dit, Seigneur, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, je vais y arriver. Cette fois-ci, je vais tenir. Et tellement de fois, on est découragé parce que on est inconstant. Parce que tout simplement, on manifeste l'inconstance. Et comme je l'ai déjà dit il y a un an, je me souviens, la constance, ça nous définit. C'est déjà en nous. Et on peut le vivre, on peut le manifester parce qu'on va suivre la direction du Saint-Esprit à travers des pas, à travers une marche. Oui, parfois peut-être des chutes, des rechutes. Mais la constance n'a rien à voir avec juste une prière que je vais faire. Et dis, Seigneur, je veux être constant. C'est une marche. Et on va le voir, c'est une décision. Et peu importe. Et je sais qu'en ce moment, il y a des circonstances qui peuvent venir nous ébranler et qui peuvent peut-être ébranler certains dans leur foi, dans leur parcours. Et dire, mais en fait, je n'y arrive pas et je n'y arrive plus. Et vous allez voir que Dieu a un message tellement d'espérance. Et j'ai prié et je prie et je déclare qu'à la fin de ce message, vous allez prendre des résolutions, des décisions qui vont vous permettre de vivre avec constance. C'est possible. C'est possible. Ça fait des mois, ça fait des années que je vis avec constance. Si c'est possible pour moi, c'est aussi possible pour toi. La Bible nous parle de Daniel. Daniel vit dans un environnement, dans un temps marqué par une loi qui va être décrétée et qui va interdire la prière. Dans le temps de Daniel, il y a une loi, à un moment donné, qui est décrétée. C'est un décret royal. Un décret royal. Et quand il y a un décret royal, ça veut dire que ça doit être suivi. Ça doit être exécuté. Mais c'est dans ce décret royal où il est interdit de prier. Et peut-être qu'on a décrété sur ta vie, à travers des circonstances, à travers peut-être une mauvaise nouvelle, à travers une épreuve. Derrière l'épreuve, il y a parfois des décrets sataniques pour couper ta communion avec Dieu, pour couper ton temps avec Dieu, pour couper peut-être ton habitude de jeûne, pour couper peut-être ton habitude de lire la parole de Dieu, pour couper peut-être ton habitude de lire le dévotionnel 365 jours. Depuis que tu as entendu ce décret, il y a quelque chose qui s'est brisé dans ton cœur. Écoute-moi bien. C'est sérieux. Il y a des mauvaises nouvelles qui sont des décrets sataniques. Et là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il était interdit de prier. Et le décret vient comme une flèche dans notre cœur. Et nous rend instable, nous rend inconstant, nous fait bouger. Et regardons, on va apprendre de Daniel. Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, vous voyez, lorsque Daniel sut, donc il y a une connaissance, il y a une mauvaise nouvelle. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Lorsque Daniel, la Bible dit, sut. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, comment tu réagis lorsque tu sais que tu n'as pas été pris? Comment tu réagis lorsque tu sais que tu n'as pas été choisi? Comment tu réagis lorsque tu sais que tu es peut-être touché par une maladie? Comment tu réagis lorsque tu sais que peut-être quelqu'un que tu aimes est touché par quelque chose? Comment tu sais, comment tu réagis quand tu sais que lorsque Daniel sut Il se retira. Pas pour se perdre, pas pour se couper. Il se retira dans sa maison. Écoutez-moi, et là c'est quelque chose de très, très prophétique. Je vais entrer dans une dimension prophétique. Il se retire dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes. Où les fenêtres étaient ouvertes. Les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Où ça? En direction de Jérusalem. Tu peux fermer ta porte. Je ne sais pas si tu vas comprendre la profondeur de cette parole, mais je prie que ton intelligence s'ouvre. Il y a des moments où on ferme la porte, mais ne ferme pas tes fenêtres. Tu peux fermer, tu peux te retirer, tu peux peut-être prendre un temps avec Dieu, mais ne ferme pas les fenêtres qui donnent en direction de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Jérusalem, littéralement, c'est la fondation de la paix. Daniel est resté stable, est resté constant. Parce qu'il est parti dans les chambres supérieures, là où les fenêtres étaient ouvertes. La fenêtre nous parle de vision. L'ennemi, ce qui vient attaquer, ce n'est pas la mauvaise nouvelle. Ce n'est pas la personne même. Ce n'est pas même ce que tu as appris. Ce n'est pas le décret qui est mauvais. Ce qu'il veut attaquer, c'est ta vision spirituelle. C'est tes promesses. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est ça qu'il veut attaquer. Donc Daniel, lui, lorsqu'il y a le décret qu'il est interdit de prier, lui il va là où la fenêtre s'ouvre, en direction de Jérusalem, en direction de celui qui est la paix, de celui qui donne le shalom, de celui qui donne la stabilité, de celui qui donne la constance. Est-ce que vous captez ça? Tu peux être atteint par une mauvaise nouvelle. Je dis bien atteint, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles qui nous atteignent. Tu peux être touché par une relation où tu as été brisé, par une relation qui t'a déstabilisé, par une relation qui t'a trahi. Mais va dans la chambre supérieure. Lève tes yeux. Laisse la fenêtre ouverte. Ne ferme surtout pas la fenêtre. Oh oui, tu as peut-être besoin de temps où tu vas t'isoler un peu. Mais ne ferme pas la fenêtre. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours une personne. Il y a toujours une relation. Il y a toujours une église en forme d'une fenêtre qui te donne la direction de Jérusalem. Quand j'ai dit, tu as dit quoi? Quand tu applaudis, applaudis bien. Dimanche dernier, nous avons eu un puissant message. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Vous savez, la Bible dit, la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Si c'était ouvert dans la direction de Jérusalem, c'est que Daniel, quand il allait, il ne voyait plus, il n'écoutait plus, il ne regardait plus le décret royal. Il avait la vision, il avait les yeux ouverts sur Jérusalem, le shalom, la fondation de la paix. Pourquoi je fais le lien avec ce qui a été prêché dimanche? La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Comment tu vas te lever et briller? Et rester stable. Si ton œil est en mauvais état, beaucoup de chrétiens sont instables. Ou toi, si tu n'as pas encore Jésus, tu es tout simplement instable parce que ta lumière, ton œil qui est la lampe de ton corps et de ta vie est dans les ténèbres. Si ton œil qui est la fenêtre, ne pas, la fenêtre doit être ouverte. Vous comprenez? C'est pas la mauvaise nouvelle. C'est peut-être quelque chose qui a fermé la porte à un projet. Mais ça ne peut pas fermer la porte à ta destinée. Si ton œil est ouvert, si la lampe est éclairée, on peut me fermer toutes sortes de portes. Les hommes peuvent me fermer toutes sortes de portes. Les hommes peuvent me donner toutes sortes de verdicts. Mais si mon œil continue à voir la méga church, si mon œil continue à voir le Dieu qui m'a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Si mon œil continue à voir le Dieu qui m'a dit, avec toi, avec Dieu, je ferai des exploits. Le Dieu qui m'a dit que toute terme forgé contre moi ne sera sans effet. Et que toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je peux la condamner. Le Dieu qui m'a dit, si ton œil continue à voir la parole, si ton œil continue à voir la promesse, le décret royal, lève ta main droite et dis avec moi, je renverse le décret royal. Tout décret satanique, tout décret diabolique. Et je déclare que mon œil est ouvert. Je renverse tout décret satanique qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de percer, qui m'empêche de grandir. À partir d'aujourd'hui, je réalise que mon œil est ouvert, que mon œil est ouvert. Je vois clair. Au nom de Jésus-Christ, c'est fait. Amen, amen, amen. Ne te laisse pas déstabiliser par les mauvaises nouvelles. Ne te laisse pas déstabiliser par l'épreuve. Ne te laisse pas déstabiliser par les décrets. Il y a un autre décret qui a été écrit déjà dans le ciel. Qu'as-tu changé que tu n'aurais pas dû changer? Qu'as-tu changé depuis que tu as appris ça? Qu'as-tu changé depuis que tu as vécu ça? Que tu n'aurais pas dû changer? Ah oui, j'ai tellement vécu la souffrance, j'ai tellement vécu des blessures. Tu sais au fond de toi, depuis que. Et quand j'ai rencontré Sergio ce fameux jour, je savais que quand il disait ça, il y a quelque chose qui avait changé, qui n'aurait pas dû être changé. Les circonstances m'avaient touché. Les circonstances avaient fait changer mon appel. Et lui, quelque part, en disant ça, il est en train de dire, mais non, tu n'aurais pas dû changer. Qu'as-tu changé? Lui, Daniel, il est parti comme d'habitude. Nous l'avons lu, hein? Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu, comme il le faisait auparavant. Quand les décrets humains ou les circonstances changent, l'agenda de Daniel ne change pas. Pourquoi ton agenda change? Pourquoi tu avais décidé de prier chaque jour 5 minutes? Dis-moi, pourquoi ça change depuis ça? Depuis que quelqu'un... Pourquoi tu mélanges ta relation avec cette personne avec ta relation avec Dieu? C'est pas... Et c'est là que tu dois et qu'on doit comprendre la stratégie diabolique. C'est pas de te toucher tant toi, c'est de toucher ta relation avec Dieu. Il y en a qui sont qui ne vont plus à l'église. Je n'irai plus à l'église. La réalité, c'est que quelques temps plus tard, ils ne vont plus même dans la présence de Dieu. Parce que le but, ce n'était pas juste de t'atteindre, toi ou ta relation avec l'église. De changer ton agenda. Les dimanches, c'est fait pour aller à l'église. Ne change pas ton agenda. Il y en a qui sont prêts à aller en boîte la veille. Allez, quand je dis boîte, ça concerne peut-être pas plus de la moitié d'entre vous. J'espère encore plus. Mais bon, bref. Il y en a qui ne vont pas changer l'agenda d'un rendez-vous, d'un apéro. L'agenda de l'apéro ne change pas. Mais l'agenda du culte change. Hein? Fait ouh. Mais dans ce lieu, on ne condamne pas. Hein? Pas de condamnation. Juste prise de conscience. Non. Ouais. Daniel ne change pas son agenda. Si tu veux la constance, il y a des choses qui ne doivent pas changer. Je suis constant parce que mon agenda n'est pas connecté à la météo. L'agenda n'est pas connecté à la météo de mes humeurs. Il y en a qui adorent quand tout va bien. Et qui s'adore quand tout va mal. Il y en a qui adorent Dieu quand tout va bien et qui adorent leurs problèmes quand tout va mal. Ton inconstance est connectée juste au fait que tu connectes tes émotions à ta foi. Et en fait, une clé pour être constant, c'est comprendre que ce n'est pas un accident, comme je disais, la constance. C'est une décision. La constance est une décision qui s'impose au-delà des circonstances. Je suis constant. C'est pour ça que je voulais revenir avec ça tout à l'heure. Pasteur Marc a dit quelque chose. Qu'elle a dit, peu importe mon compte bancaire. Donc, ça n'a pas dit que quand tu es dans le rouge, tu donnes. Ça veut dire tout simplement que même si, avec ma logique, mon compte bancaire dit que, mon salaire dit que je ne peux pas donner d'abord à Dieu, ma décision dit que priorité c'est à Dieu avant le McDo. Oui! Pourquoi ça change pour Dieu et pas pour le McDo? Pourquoi tu peux donner au McDo mais pas donner à Dieu? C'est que tu connectes ta générosité à Dieu, à ce que tu sens, à ton feeling. C'est une décision qui s'impose au-delà des circonstances. Trois fois le jour, Daniel se mettait à genoux, il priait, il louait Dieu, son Dieu, comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Il y a des choses, hein, ça doit être comme je le faisais auparavant. C'est-à-dire que quand je prêche là, et je vais être honnête avec vous, il y a une situation que je vis par ricochet, pas directement. Ce matin, je n'ai pas envie de prêcher. Ce matin-là, mon cœur est en vrac. Si je ne vous le dis pas, vous ne pouvez pas le remarquer. Pourquoi? Comme auparavant, je prêche. Si vous écoutez mon message, la dernière fois que j'ai prêché, et si vous écoutez comment je prêche aujourd'hui, je prêche comme auparavant. Pas en fonction de mes émotions. Parce que j'ai décidé que, comme je le fais auparavant, mon Dieu est toujours amour. Mon Dieu est toujours vivant. Mon Dieu est toujours attentionné. Mon Dieu est toujours présent. Et sa parole ne change pas. Donc, mes yeux sont fixés sur sa parole. Et ça ne veut pas dire que je tais mes émotions. Ça veut juste dire que je ne laisse pas mes émotions dicter ma constance. Il y a deux saboteurs de constance. De la constance. Pas deux saboteurs de constance. Hein. Deux saboteurs de la constance. Mais ta fille, elle est prophétique et je le crois de tout mon cœur. L'irrégularité. C'est nous qui choisissons d'être irréguliers. La Bible dit, comme il le faisait auparavant, il part trois fois par jour. Il avait des heures fixes. Il garde son rendez-vous avec Dieu. Ça peut te paraître un conseil facile, simple, mais aie des heures, des rendez-vous avec Dieu. Commence par quelque part. Nous, les prédicateurs, on donne des vérités tellement profondes, on ne les applique pas. Et quand c'est tellement pratique, on dit, on ne les applique pas. Moi, là, c'est très pratique. Aie des rendez-vous fixes. Si Dieu est du soir, ok. Si Dieu est du matin, ok. Mais aie des rendez-vous fixes. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, tu vas être constant, commence par dire, ok, je prends 5 minutes, je prends 10 minutes, je prends 15 minutes, mais je les prends, c'est mon heure. Et quand il y a un autre rendez-vous, je suis pris. Mais oui, pourquoi notre agenda, on va toujours le bouger pour tout ce qui concerne Dieu, on bouge. Pour le reste, on ne bouge pas. Est-ce que ça t'arrive d'oublier de manger? Pour certains, c'est plus facile. Mais la majorité, 99% d'entre nous, on n'oublie pas que le matin, il y a le petit déjeuner, le midi. Et si jamais on a sauté, tout le monde le saura que tu n'as pas mangé. Hein? Mais quand tu sortes un repas avec Dieu, pourquoi tout le monde ne le sait pas? En fait, tout le monde le sait parce qu'à un moment donné, ça va se voir. Et toi-même, au fond, tu sais que... Non, la régularité... La foi devient stable quand l'agenda honore Dieu avant tout. Mon agenda doit honorer Dieu avant tout. Et c'est là que je vais commencer à devenir constant. Le décret, regardez la puissance du décret royal. Mais la puissance du décret royal s'éteint et se prosterne devant la constance de Daniel. Parce que Daniel dit, je ne change pas mes habitudes spirituelles. Je ne change pas ma discipline spirituelle. Pourquoi si quelqu'un t'a déçu, tu changes ta discipline spirituelle? Sans rendez-vous régulier. Écoute-moi bien, c'est simple. C'est une punchline. Mais c'est tellement profond. Sans rendez-vous régulier, il n'y a pas de percée régulière. C'est dans ton rendez-vous régulier avec Dieu que tu stabilises la percée. Que tu vis de percée en percée. Il y en a qui disent ouais, de gloire en gloire. Mais quand tu vois ta relation avec Dieu, c'est toi qui détermine le niveau de gloire. De gloire en gloire, c'est possible si je maintiens mon rythme. C'est pas quelque chose, comment je peux dire, c'est pas une question de performance. Là encore, est-ce que ça nous arrive de dire j'ai dit la bouffe, c'est pas très beau là, mais manger, c'est de la performance. Et ça nous arrive de penser que parce que tu vas manger tous les temps, tu vas dire, oh, c'est bon, c'est pas performant. J'ai jamais entendu ça, moi. Ah, mais non, mais attends, ah, ben c'est bon, sois pas religieux, mange pas tous les jours. Oh, quand même. Dieu connaît ton cœur. Ou Dieu connaît ton corps. Et pourquoi pour les choses divines, de suite, c'est religieux? Pourquoi c'est religieux d'avoir mon moment comme les autres fois, tous les matins avec Dieu, avec mon Sauveur, chaque matin? Pourquoi ce serait religieux, comme j'ai déjà dit, et parfois ça me tente, avant de répondre à un texto, de dire bonjour Dieu? Pourquoi ça serait religieux? Il y a des choses comme ça, on a mis religion de partout, au point qu'il y a des familles chrétiennes qui ne prient même plus pour le repas. Et que si tu demandes la prière pour le repas, même toi-même te gêner. Hein? Non, disons les choses vraies. Il y a des moments où tu es avec des chrétiens, tu n'oses même pas dire, est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? Par peur de paraître pour le spirituel. Mais c'est... on doit se repentir de ça. Je ne dis pas qu'on doit mettre la parole de Dieu de partout, mais la parole de Dieu habite en nous. L'irrégularité. Commence à dire, ok, 5 minutes par jour, 10 minutes et à telle heure. Je le mets dans mon agenda, si c'est dans ton téléphone, si c'est un agenda papier. Oh, quel serviteur, merci. Même si c'est un agenda, mets-le, fixe-le et garde-le. Un petit conseil, puisqu'on veut être pratique ce matin, donne ton rendez-vous avec Dieu à d'autres. Comme ça, quand tu le rates, les autres te disent, mais tu n'avais pas rendez-vous avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais là? Donne-le, communique ton jour de jeûne. Comme ça, si tu manges un kebab, la personne dit, mais tu n'étais pas en jeûne? Je vous assure, ça marche. Moi, je communique, hein. Je communique. Je communique ma discipline, je vous assure. Je communique ma discipline parce que l'environnement m'aide à rester discipliné. Mais oui. Donc si je mets jeûne, je vais jeûner. Sans rendez-vous régulier, il n'y a pas de percée régulière. Sans rendez-vous fixe avec Dieu, tu n'auras jamais de percée fixe. En fait, ton inconstance de tes victoires reflète ton inconstance de ta relation avec Dieu. On va juste parler vrai. La vérité, ce n'est pas un jugement. C'est pour te libérer. Il faut juste que tu dises, oui, en fait, ma vie est comme ça parce qu'avec Dieu, je suis comme ça. C'est les montagnes russes parce que tes décisions sont des montagnes russes. L'application de tes décisions, c'est des montagnes russes. J'ai décidé que, et demain, ah, ça change. Ça ne marche pas comme ça. Même s'il y a l'OM qui joue, même si je sais que Paris va se faire massacrer. Ouais. Écoute, je t'assure. Il y a des patients qui se voient plus. Hein. Il y en a qui répondaient pas. Vous savez, oui, lui, quand on regarde les matchs de foot, il parle en langue. Je vous assure. Hein. intercession. Il prie, il parle en langue. Mais je bénis Dieu parce qu'il a la même passion pour Dieu. Amen. Tu n'es pas religieux quand tu es passionné pour Dieu. Refuse ce mensonge. Si tu sais que c'est parce que tu aimes Dieu. Une fois, pasteur Raphaël, il faut attention que je dise quelque chose de positif parce que le pauvre, tout le temps, je parle de son sourire et tout. Une fois.
Il a un beau sourire.
Il a dit quelque chose de puissant. Il a dit pourquoi je. Plusieurs me demandent pourquoi je me soumets à pasteur Omaric alors que j'ai été déjà pasteur d'une église. Il a dit j'aime, mais ça répond. Parce que j'aime Dieu. On ne doit jamais s'excuser d'aimer Dieu. On ne doit jamais se laisser traiter de religieux parce que nous aimons Dieu. On ne doit jamais se laisser traiter de fondamentaliste parce que tu es biblique. Si tu sais que tu sais que tu sais que c'est la Bible qui te dit, sois régulier. Tu vas battre l'inconstance. Commence à prendre la parole et à déclarer quand ton irrégularité, je te renverse. Le décret royal peut être renversé comme on l'a fait par des proclamations de la parole. Mais si maintenant tu n'es pas régulier dans ton moment avec Dieu, ta percée, tu vas la perdre. Et combien de personnes, Dieu même guérit le corps. Et c'est terrible. Tu obtiens la victoire. Et parce que tu as obtenu la victoire, tu repars avec à ce que tu avais vomi. C'est triste. C'est triste. L'irrégularité dilue la puissance. Deuxième saboteur de la constance, les circonstances qui changent. Les circonstances changeront toujours. Deuxième bonne nouvelle, tu auras de temps en temps dans ta vie des mauvaises nouvelles. Mais je peux choisir que ça ne dictera pas ma constance. Ce qui te contrôle, c'est ce qui va diriger ta vie. Hein. Si tu laisses les circonstances te contrôler, c'est les circonstances qui dirigent ta vie. C'est les circonstances qui vont dire quand est-ce que tu es stable, quand tu es instable, quand est-ce que tu es haut avec Dieu, quand est-ce que c'est un peu... Généralement, comment ça va? Certains vont dire, ah, c'est pas top avec Dieu. Vous savez quoi? La réalité, c'est pas que c'est pas top avec Dieu. La réalité, c'est que je vis une circonstance qui m'affecte. Bien souvent, quand les gens vous disent ça va moyen avec Dieu, ils sont en train de vous dire tout simplement, ah, en fait, j'ai laissé une circonstance m'affaiblir. C'est ça la réalité. Lorsque les gens disent, ah, ça va moyen avec Dieu, non, ils ne sont pas en train de dire que Dieu est moyen. Ils sont en train de dire, j'ai été moyen dans ma régularité avec ma communion avec Dieu. Essaye d'être régulier avec Dieu. Essaye d'être constant, de décider que tu gardes ton temps fixe. Tu verras que ça n'affectera pas tes humeurs. Donc le problème, comment tu vas? Mes rendez-vous sont fixes. Donc je vais bien. Les circonstances, tu ne peux pas avoir la main toujours dessus. Mais tu as la main de ta communion avec Dieu. J'ai la main. Je peux diriger ma communion avec Dieu. C'est moi qui décide quand je ferme la porte et que j'ouvre la fenêtre. C'est moi qui décide. Daniel n'avait pas la main sur le décret royal, mais il avait la main sur son choix de regarder au roi des rois. Si la peur te contrôle, tu vas manger les fruits de la peur. Instabilité, inconstance, versatilité, oui, j'ai bien dit. Irrégularité. Ça, ce sont les fruits de l'inconstance. On peut rien bâtir, hein. Ceux qui sont dans le bâtiment, imaginez un peu là, bâtir sur quelque chose comme ça, de tout le temps des sables mouvants. On ne peut pas bâtir. Ce que tu vas faire malgré l'opposition va révéler qui tu es réellement. Et je crois réellement que la vraie constance n'est pas mesurée dans des temps calmes. La vraie constance est mesurée quand il y a la pression. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'a pincé, c'est là qu'on sait si tu dis des gros mots. Il y en a, tu penses, c'est ouille. Et il y en a, tu penses, c'est autre chose. Et dans la vie chrétienne, c'est exactement pareil.
Quand l'ennemi te pince, il y en a, c'est karakorori barasataba. Shende karasotobari yakorobababa. Et il y en a, quand l'ennemi te pince, c'est Dieu, pour toi tu avais dit ça, hein? Et pourtant j'ai donné ma dîme, hein?
Ah, le vrai, ça commence à sortir là. Il y a un problème là. Et pourtant le dimanche je suis allé à l'église. Là tu crois que tu as une médaille parce que dimanche je suis allé à l'église. Tu vois, pourtant j'ai prié le matin, le midi. Mais non, je ne prie plus. Comme c'est comme ça, je ne prie plus. Ah, là, tu commences à... Voilà. Mais ça montre en fait que tu, c'est pas par amour que tu faisais. C'est pas grave en soi. Juste, reconnais-le que c'était par intérêt. Maintenant, change les choses. Hein? Ça arrive. Ça arrive dans notre marche. Avec, on a de la régularité par intérêt. La pression révèle si ta vie de prière est une véritable habitude ou non. Basée sur l'amour ou basée sur juste le fait de vouloir gagner le ciel. J'ai pris une décision dans ma vie que peu importe la pression ne me changerait pas dans mes décisions que j'ai prises avec Dieu. J'ai pris cette décision que peu importe la pression, la décision et les décisions que je prends devant Dieu ne doivent pas changer. Et vous savez quoi? Ça me rend plus constant. C'est aussi simple que ça. Parce qu'une décision répétée va devenir une discipline ou une habitude. Une décision répétée, ça devient une discipline. Ah, j'arrive pas à avoir la discipline. Tu sais quoi? Recommence à prendre la même décision. Ça sera une discipline. Donc, le deuxième point, je vous ai dit, qu'est-ce que la constance? Le premier point, c'est une décision. Le deuxième point, la constance, c'est une discipline qui va engendrer, on va voir l'intégrité. Une discipline. Pasteur Fabien me partageait un point important. Quand je parle de discipline. Il y a quelque chose de plus élevé que la discipline. En fait, la discipline, c'est tellement facile lorsqu'on comprend notre identité. Dis à un poisson, tu seras mieux hors de l'eau. Mais lui lui dit, mais je suis un poisson. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Oui, vole comme un aigle dans les airs, tu vas voir, tu vas voler, tu es appelé à voler comme l'aigle. Sors de l'eau, sors de l'eau, sors de l'eau. Et parfois... Nous, on oublie qu'on est fait pour être dans sa présence. On est fait pour être dans l'eau de sa présence. On a été créé, notre identité, c'est juste être dans la gloire. C'est ça que j'aime dire, je suis glorieux. C'est mon identité. Pourquoi je m'excuser d'être glorieux? Je porte les gènes de la gloire de mon Père. Je porte les gènes de la victoire de mon Père. Je porte les gènes de celui qui a dit tout est accompli. Je porte les gènes de celui qui amène les choses à la perfection. De celui qui a commencé et qui termine. Donc je dis que j'irai jusqu'au bout. Donc ce n'est pas être présomptueux que de dire que peu importe les circonstances, Jésus, je te suivrai. Dans la Jean, prends à prendre ce chant s'il te plaît. Si c'est dans la liste des 40. Peu importe, Jésus, je te suis vrai. Je te suis vrai. Oui, parce que je décide aujourd'hui. Mais dimanche, on décidera encore. Dimanche d'après, je déciderai encore. Et ensuite, ça sera une discipline. Je te suis vrai. Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi? J'ai décidé. Parce que ma vie est basée sur ce que la parole de Dieu dit. Alors les chefs, Daniel 6, verset 4. Et les strapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Il était intègre, il était discipliné dans sa relation avec Dieu. Pourquoi il n'y avait pas de faute? Parce qu'il se nourrissait de la présence de Dieu. L'intégrité, tu la développes comment? Tu ne n'es pas intègre, hein? Depuis que Adam a péché, tu ne n'es pas intègre. Tu le redeviens déjà en acceptant Jésus-Christ et en te connectant tout le temps à celui qui t'a donné cette nature. Parce que quand tu vas répéter chaque jour quelque chose, c'est ça qui va faire en sorte que ton CV spirituel va être rédigé. Comprends? Ton CV spirituel dépend de ce que tu répètes chaque jour, de cette discipline que tu as. Alors, l'autorité, oui, on croit à l'impartation, on croit à des transferts d'onction. Mais attention, la discipline, personne ne peut te la transférer. Tu peux venir me voir, je t'impose les mains, je t'impose les pieds, je te pose ma tête. Je te donne des coups de tête à gauche, à droite. Mais la discipline, c'est toi qui décides si tu vas être discipliné ou pas. C'est toi. Et j'aimerais une stratégie. Si tu comprends ce que je vais dire là, c'est le but en fait de l'ennemi. L'ennemi, il vise ta discipline. C'est une cible qu'il veut atteindre, toucher. Quand il voit un chrétien qui commence à mettre en place une discipline de vie, une discipline de rigueur dans la bouche. Tu as décidé, tu as entendu une parole, ça t'a, maintenant je n'ai plus dit des gros mots. T'inquiète pas, tu sors là, quelqu'un va te provoquer. Parce que l'ennemi veut toucher ta discipline. Et si ça n'a pas fonctionné, il y a quelque chose qui va t'arriver, tu vas dire, ah ben depuis que j'ai pris cette décision là, de toute façon ça change pas trop. Et tu reviens. Non. Il faut comprendre, l'ennemi vise ta discipline. C'est une cible. Quand tu décides d'être discipliné, tu deviens un homme, une femme dangereux. Il y a deux catégories. Il y a des personnes qui réécoutent les messages, qui ne sont pas capables de prendre les notes quand elles écoutent les messages. Ok? Donc ça, j'ai bien compris. Donc ne vous sentez pas jugé par ce que je vais dire maintenant. Par contre, je suis étonné. Là, je parle à la famille M. Les visiteurs, détendez-vous, je parle pas à vous parce que ceux de la famille M, vous me connaissez. Je suis étonné. Je vois profusion Olivier. Tu as quel âge, s'il te plaît? 55. J'ai 45, 10 ans d'écart. Je prêche, il prend des notes. Est-ce qu'on peut l'honorer, s'il te plaît? Ça m'a coûté du temps. Donc, quand je vois certains qui... Si vous ne réécoutez pas les messages et que vous ne prenez pas de notes, demandez pardon, Seigneur. C'est une discipline. Hein? Moi, je prends des heures et ceux qui prêchent les dimanches prennent des heures. Donc, quand vous écoutez un prédicateur, ça doit être une discipline de prendre des notes. Alors là, je parle... Encore une fois, je parle à ceux de la famille M. Les jeunes, là, vous devez commencer. Montrez-moi vos carnets. Très bien. Yann, il est où ton carnet? OK, bien. Pour prendre des notes. Il se dit, est-ce qu'il va me poser la question? Il fait. Il est regardé là-bas. Ouais, il est... Okay, tu pourras couper son montage. Prenez des notes, c'est important. OK, d'accord. La discipline. Très important. Dernier point. Il reste 4 minutes. Qu'est-ce que la constance? On a dit que c'est une décision. C'est une discipline. La constance, c'est une semence. Quand tu es constant, à un moment donné, tu peux même t'ennuyer peut-être parce que tu dis, mais je fais les mêmes choses, Mais c'est une... Il faut voir la constance comme une semence qui va engendrer une élévation. Daniel, lui, il a fait les choses comme avant. Comme avant. La Bible nous dit, Daniel 6, verset 28. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus. Daniel prospéra. La prospérité, ce sera le thème du mois prochain. Ça ne nous tombe pas dessus. Il y en a qui veulent avoir en épargne. Je vais vous donner un secret. Pour certains, vous allez sourire. Ça va vous rappeler quelqu'un. Pour avoir 1 000 euros dans un compte d'épargne, c'est simple. 1 000 euros, c'est pas grand-chose. Hein? C'est 100 euros 10 fois. Certains, vous avez compris l'allusion?
Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, je vais épargner. Je vais avoir 1000 euros. Ah, prospérité. Franchement, décide de mettre 100 euros minimum tous les mois. Un acte, lui, je peux le faire, c'est mon fils. Yann, tu décides quoi? De mettre combien de fois par mois? C'est moi, tu as mis combien? 200. Oh, bravo. Oh non, bravo. Bravo. Très important. Ben oui. Donc, le mois prochain, tu vas mettre combien? Combien? 200. Très bien. La régularité. Donc, le mois prochain, tu vas avoir 2000 euros. Mais 200 par mois. Je suis sûr que Yann aura l'occasion, McDo, il aura d'autres occasions pour ne pas mettre 200. Vous comprenez? Tu veux avoir de l'autorité. Mets 5 minutes tous les jours de prière. C'est quoi 5 minutes? Et il y en a qui n'arrivent pas à prier, peut-être, je sais pas moi, une demi-heure par jour. Mais 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, tu as ta demi-heure de prière. Tu n'arrives pas à prier une heure, tu peux une demi-heure, tu stockes une demi-heure. Mais tu sais, c'est quoi? C'est une question de stock, c'est une question de discipline. La prospérité. La Bible dit, Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » C'est une semence. Ce que tu vas faire une fois te définit un jour, mais ce que tu vas faire toujours te définit pour toujours. Ce que tu vas faire une fois, il y en a qui disent, « Ah, tu as vu, hein, j'ai été gentil. » Oui, tu as été gentil. Mais maintenant, si tu fais tout le temps ça, tu seras gentil. Il y a une différence. Tu veux être un homme de prière. Ah, j'ai prié une fois. Tu es un homme de prière, une femme de prière, quand tu es constant. Et je ne parle pas de une heure, deux heures tout le temps. Cinq minutes par jour, fais de toi une femme de prière. Ce que tu fais toujours, finit toujours par porter du fruit. Emmanuel, tu peux l'arrêter, s'il te plaît, il me reste 30 secondes. Et je finis avec ça. Ce que tu fais toujours, finit toujours par porter du fruit. Ne te décourage pas. Je n'ai jamais vu la constance être stérile. C'est ça qui me tient pour l'Église M. Je sais, vous êtes constants dans les standards, dans l'excellence. Et si nous sommes là encore, c'est parce qu'on est constants. La constance n'est jamais stérile. Jamais, 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 jamais. Et cette semaine, il y a un verset qui me revenait. Le pasteur Marc parlait que d'honorer Dieu avec ses biens. Vous savez quoi? Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est une loi spirituelle. C'est pour ça que quand je dis la constance n'est jamais stérile, c'est un principe. Dieu y voit ta constance. Donc, dans le ciel, dans le monde de l'esprit, il y a quelque chose qui va se déclencher. Automatiquement. Donc, tout à l'heure, je vais conclure. Tout à l'heure, quand on va prier pour Constance, j'aimerais vraiment qu'on se souvienne. Qu'on se souvienne de... que la constance a toujours un fruit. La constance a toujours un fruit. Et la constance va nous conduire dans la promotion divine. Et je prophétise une prophétie qui va se réaliser. Voilà une prophétie qui va se réaliser. Parce que tu décides, parce que tu te disciplines, parce que tu sèmes, tu récolteras. Parce que je décide de revenir à mon temps avec Dieu, parce que je décide d'être à nouveau régulier dans la lecture de la parole, peu importe ce que je vis, peu importe la décision, peu importe ce que je viens d'entendre, peu importe ce que je subis, parce que je décide de rester dans l'honneur, parce que je suis discipliné dans ce que j'ai compris, je sème ma future promotion, je sème mon futur exaucement.
Je sais ma future élévation. Ah, dis Amen avec moi.